Les Brûlés par Elisa Reis. La maison Neftali Frère, de petits magasins qui s'alignent les uns à la suite des autres, le long de la rue des Koulougli à Blida. Des 9 portes, devant lesquelles les coupons de toile, les chaussures, les articles de bazar s'entassent en un pêle-mêle prodigieux. On voit la ville blanche grimper doucement, avec ses maisonnettes aux toits en terrasse, ses bosquets d'orangers, ses guirlandes de roses. On voit la ligne brune des monts de Créa, que l'hiver couronne de neige, que l'été embrase d'un souffle de sirocco, en faisant mugir 800 hectares de cèdres bleus. On vend de tout chez les frères Neftali, des étoffes lamées pour les costumes des moukers et des soieries lyonnaises imprimées à l'effigie de Toutankhamon, des services en filigrane pour le café turc et de la porcelaine de Limoges pour le 5 o'clock, de l'ambre du Caire, du henné de Djerba, et tous les parfums de Coty. L'abondance et la variété de la marchandise font que le va-et-vient de la clientèle ne décesse pas. Les frères Neftali tiennent la place. Leur fortune a été rapide. Pour les années du début, Isaac et Mardochée se contentaient d'un repas par jour. 3 sardines qu'ils faisaient griller eux-mêmes sur un feu de bois et qu'ils enfouissaient dans un pain arabe. C'était Pot de Fleur, le poissonnier ambulant, qui chaque vendredi passait devant leur porte. « Tout y bouge !» gueulait-il en agitant sa chéchia la branche de jasmin ou de rose qu'il valait son sobriquet « Tout y bouge ». Pour 2 sous, Potefleur donnait au frère Neftali une livre de sardines et il en ajoutait une poignée pour la charité d'Allah par-dessus le marché. De serviettes, il n'était nul besoin. Pour essuyer leurs doigts graisseux, Isaac et Mardochée donnaient un coup de pouce à leurs pantalons de bure et la toilette était finie aussitôt leur pas. Point de vaisselle, leur vin coulait pur à la fontaine de la rue. Le soir, il se coucha 7 heures pour n'avoir pas à brûler de bougies et être sur pied dès la fin du matin. Et la maigre boutique, mal placée, sombre, quelque temps méconnue, devenait bientôt le magasin le plus vaste et le mieux achalandé de la ville. Les confrères maugréaient contre cette concurrence redoutable. Plusieurs coulaient dans une même année. Canailles, voleurs, sales juifs étaient les épithètes dont Isaac et Mardochée s'entendaient gratifier le plus souvent. Ils ne ripostaient jamais. Les commerçants européens, habitués à vivre dès l'enfance de tables d'acajou, de nappes blanches, de différents vins, de gigots et de desserts, ne comprenaient point comment les frères Neftali pouvaient vendre la même marchandise à des prix aussi bas. Mais ils n'ont aucun bénéfice. Comment vivent-ils? Où l'achètent-ils, leur marchandise? Ils la volent. En tout cas, ils pratiquent un fourbi que nous ne connaissons point. À mesure que les faillites se déclaraient, que les boutiques se fermaient, les frères Neftali emplissaient les leurs à craquer des marchandises qu'ils achetaient de ces faillites mêmes. Puis, ils ouvraient un magasin nouveau à côté, sans songer à acquérir d'architecte ni d'entrepreneur de maçonnerie. Un vieux bicot descendait la cloison à coups de masse, balayait les débris et la transformation était faite. De la marchandise à bon marché, voilà ce que demande notre clientèle, pauvre et méfiante. Avisons-nous seulement de faire blanchir nos magasins et nous verrons tous les moineaux s'envoler. Le kabyle avec son burnou, le maltais avec son pantalon de hussard, le juif avec son caftan, y regarda 20 fois, avant de franchir le seuil d'une boutique enluminée. « Entends, » disait Mardochée à son frère, qui avait parfois des velléités de modernisme, « entends parler les clients, lorsqu'ils reviennent des galeries de France. Ce luxe, mon ami, c'est nous qui le payons. » Au surplus, bouleverser les choses, faire gratter les plafonds, repeindre des portes, c'est effacer le bonheur, c'est chasser la chance. La poussière, la bonne poussière, la saleté, si tu veux, c'est le levain de la boutique. Et nos pères étaient de la classe ouvrière, ils étaient marqués pour la modestie dans les livres de Jéhovah. Nous ne devons pas défier Dieu. L'aîné était grand, maigre, très brun, le nez crochu, les doigts démesurément longs. Avec cela, gai, pas fier du tout de son immense fortune, acquise en peu d'années, de dures privations et d'âpres labeurs. Bon causeur, il plaisantait avec le premier venu. Les Arabes le nommaient mon frère le rieur. Un maître de chaîne sur les reins, il allait et venait devant les 9 portes de la rue des Koulougli, surveiller la clientèle, pas toujours scrupuleuse, qui aiguisait sa méfiance. Le cadet au rebours était discret, taciturne, déjà obèse. Des poches sous les yeux sans couleur, des pigments roux sur le visage, trahissaient une insuffisance du foie, origine de son humeur morose. Des lunettes d'écaille s'avançant sur les narines épatées, il se tenait immobile derrière le comptoir de bois blanc, qui était une masse solide, sans forme ni peinture, avec des plaques lustrées autour des serrures des tiroirs, révélant le nombre incalculable de fois qu'on les ouvrait et les refermait tout le jour. Mardoché encaissait, rendait la monnaie, sans jamais articuler un merci. Il poussait son tiroir, le bouclait à double tour et reprenait sa pose habituelle, une main dans l'autre, examinant le va-et-vient des acheteurs par-dessus ses lunettes. L'union, la bonne foi, la loyauté régnaient entre les deux frères. Ils ne formaient qu'un cœur. Dès que leur situation fut bien assise, que les demandes de mariage plurent sur eux, que les entremetteuses se prirent à monter et descendre comme les godets d'une noria le long de la rue des Coulouglis pour leur proposer les jeunes filles les plus radieuses et les plus cossues de la ville, les deux frères, ainsi que deux camarades, s'étaient consultés longuement sur le choix d'une épouse. Mardoché avait rencontré une femme à son goût, sage, intelligente et belle. Elle lui donna une seule fille et il s'en contentait. Mezaltoub avait aujourd'hui 20 ans, elle ressemblait à sa mère. Mardoché songeait à la marier à quelque honnête garçon qui l'associerait dans sa part aux affaires. Ce n'était point les parties qui manquaient. Mardoché ne se hâtait pas, il voulait choisir. « J'en ai bien le droit, » disait-il à sa femme. « Le mariage est une nuit et sa réflexion demande une année. Elles ne grandissent dans la maison que les filles de race. » Isaac, lui, avait épousé une femme extrêmement jolie dont il était amoureux fou. Point de caprice formulé par Rachel qui ne fut aussitôt comblé. Rachel avait 7 filles, c'était là tout son malheur, car Rachel était orgueilleuse et envieuse et ambitieuse, et dans son amour-propre, elle se sentait cruellement blessée de n'avoir pas donné le jour à un garçon qui perpétuerait le nom des Nephtali. Rachel était la plus misérable des femmes. À mesure qu'elle ne mettait au monde que des filles, la tristesse, le désespoir emplissaient son cœur. Rien ne pouvait la consoler de cette humiliation, ni l'amour de son époux joyeux et charmé, ni le faste de la maison qu'elle partageait avec sa belle-sœur, ou les cours mauresques étalaient leurs mosaïques, ou les jets d'eau fusaient au-dessus de vasques de porphyre, ou les tapis du sud, les meubles de nacre, garnissaient les chambres à demi ombreuses, ni la beauté de ses filles, qui eussent éclairé un monde, ni leur douceur, ni leur gentillesse, ni la sollicitude dont elles entouraient leur mère. À tout cela, Rachel demeurait indifférente. Aussi bien Isaac prenait-il les précautions les plus délicates à chaque naissance d'une fille pour éviter la crise affreuse de découragement. C'était une rivière ou un diadème étoilé d'émeraude qu'il venait offrir à sa femme et lui disait en la serrant dans ses bras « Ma reine, ne te désole pas. Pourvu que tout nous reste toi, saine et sauve. Bois, la naissance de chacune de nos filles m'apporte avec elle un bonheur nouveau. Nous faisons des affaires d'or. Je viens de gagner contre un Mozabite tel procès que je croyais perdu d'avance. J'ai acheté telle ferme qu'on estimait 250 000 pour un morceau de pain. Pourquoi ces pleurs et ces lamentations? Un garçon nous ouvrirait-il les portes du paradis? Nous vaudrait-il mieux que les superbes filles que Dieu nous a données? » Rachel repoussa avec humeur l'époux et son cadeau royal et ne voulait plus rien entendre qui l'apaisa. Elle détournait la tête du merveilleux morceau de satin rose où reposait le petit être maudit. Elle en avait assez des filles. C'était un garçon que ses entrailles désiraient. Elle l'appelait dans ses rêves, dans ses prières, dans ses enivrements d'amour. Un garçon, c'était la fête enchantée par les rabbins, les visites rituelles de tous les Israélites du pays venant louanger la bienheureuse, la femme que Dieu lui-même a touchée de sa grâce, et ce jour de la circoncision où elle est proclamée reine, où Moïse et tous les saints de la Bible sont présents pour bénir le foyer, pour bénir la robe du baptême, éclatant de dentelles et de pierreries. Pendant qu'elle la brodait, à chaque palpitation de son sein, Rachel pâlissait d'espérance. « Oh Dieu, si cette fois c'était le choumir Israël que tu allais m'envoyer !» Et le garçon, tant souhaité, ne venait jamais. Et comme le cœur de Rachel saignait, lorsque, pour le bain qu'elle prenait, 50 jours après la naissance d'une petite Sarah ou d'une petite Messaouda, elle se rencontrait au bord de la piscine sainte avec les heureuses qui prenaient leur bain d'après les 30 jours. « Laissez passer les reines !» crie la gardienne du hammam. « Tout ce qui vient de la fille est douleur et humiliation !» songeait Rachel en baissant la tête. Il fallait qu'elle s'inclina même devant Rebecca, sa domestique, qui était mère d'un garçon depuis 30 jours et ne se baigna qu'après elle. Le soir du bain, dans la chambre à coucher bleue que la lueur d'une veilleuse emplissait de mystère, Rachel, sous un déshabillé de surin mauve, un foulard aux franges d'or, en serrant sa chevelure, se prosternait au pied du lit d'amour et suppliait Jéhovah de se souvenir d'elle, de lui donner dès cette nuit le garçon que ses flancs seraient fiers de porter. « Oh, Isaac, disait-elle à son mari en se pâmant dans ses bras, si cette fois c'était un fils que j'avais, je n'aurais rien négligé pour cela. Je suis demeuré assis sur le nombril du bain-mort 2 heures durant avant de permettre à ma négresse de rincer mon corps empreint de savon parfumé, de musc, d'ambre et de camphre. J'ai tendu mon ventre à la table des massages qui brûlait comme du feu. J'ai bu devant la piscine sainte le verre d'eau rougi du sang de la circoncision du petit Zakitou que notre nouvelle domestique a mis au monde le mois dernier. J'ai enfin ordonné qu'à la porte du hammam un petit élève du Médrarque se présenta afin que mes regards se rassasiassent de sa vue. Je l'ai embrassé, je me suis soigneusement voilé, et c'est au bras de ma fille aînée que je suis revenu vers la maison, à tâtons, les yeux clos, Esther me conduisant comme on conduit une aveugle. Cependant, sur la table de nuit, fumait le sirop à la cannelle et au cumin, le sirop de la paternité, que les époux devaient boire avant de s'appartenir. « Rachel, conjurait Isaac, en pressant sa femme contre sa poitrine, Rachel, ma reine, ne demande rien à la nature, ne veuille pas forcer Dieu, contentons-nous de ce qu'il nous accorde. Je me rappelle toujours la phrase que prononçait mon père chaque fois qu'un malheur lui arrivait. Oh mon Dieu, celui-là plutôt qu'un pire. » Le lendemain de cette nuit d'amour où Rachel avait senti ses flancs frémir comme jamais il n'avait frémi, elle se rendit à la synagogue. Le petit chômeur s'écarta à la vue de Madame Nephtali et osa à peine lui demander l'objet de sa visite. « Je veux, lui dit Rachel, que tu m'ouvres les tables de la loi, que tu m'allumes la grande veilleuse de Moïse, que tu baisses les vitraux et que tu gardes l'entrée du temple. » Lorsqu'elle fut seule, entourée d'ombre, la porte aux enluminures mauresques refermée sur elle, Rachel ôta ses mules de velours. Ses pieds nus aux ongles roses se détachèrent comme des fleurs sur le sombre tapis. Elle ôta le foulard qui enserrait sa longue chevelure couleur d'ébène et les mains jointes, se traînant sur les genoux. Elle arriva jusqu'aux tables de la loi devant lesquelles l'enfant avait fait se replier les rideaux de pourpre. « Mon Dieu, implora-t-elle, par les bienfaits d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donne-moi cette fois un garçon. Aie pitié de mon saint désir. Orne mon front de ce doux diadème. Enlève-nous à la place toute notre fortune. Laisse-nous pauvres ainsi que Job. Fais que je traîne la savate comme un domestique Rebecca, que mes enfants aillent nu-pieds comme les siens dans les rues, mendiant leur pain, se nourrissant des décombres des marchés arabes, que mon mari rentre à la maison le front bas, ayant subi les humiliations les plus cruelles, ayant sollicité une place d'homme de peine qu'il n'aurait pas trouvée. « Mon Dieu !» cria Rachel en arrachant ses cheveux et en pleurant à sanglots. « Mon Dieu, écoute-moi !» Tard dans la nuit qui tombait, Rachel priait encore. Les lustres, les hochets d'argent miroitaient dans l'ombre de la salle. Soudain, la veilleuse de Moïse émit une fulgurante lueur. On entendait au dehors comme un bruit de vague. C'était l'ouragan qui se levait. Grimpant à l'assaut des monts, le vent sinistre mugissait, hurlait, courbait les chaînes. Tandis que l'orgie du luxe s'étalait dans leur maison et le gâchis des domestiques, que les toilettes les plus coûteuses étaient portées par leurs femmes et leurs filles, les deux frères n'avaient pour ainsi dire rien changé à leurs habitudes. Ils se marchandaient un tricot de laine l'hiver et un bol de limonade par des temps de sirocco, où le thermomètre marquait 40 degrés. Aux heures de la sieste, quand le calme était complet, Isaac et Mardoché s'asseyaient derrière le comptoir, enfouissaient 3 sardines dans un pain arabe, mangeaient paisiblement, après quoi ils allaient à tour de rôle boire une gorgée d'eau fraîche à la fontaine et revenaient, les mains nettes, pour faire leurs prières, pour remercier Jéhovah de tous les biens dont il les avait comblés, richesses, femmes belles et vertueuses, filles superbes, rayonnantes de santé. 2 mois s'étaient écoulés à peine depuis le vœu de Rachel à la synagogue. Une nuit, Isaac fut réveillé en sursaut. « au feu » criait-on dans la rue. Il retira son bras qui entourait la taille de sa femme déjà enceinte, prononça sur elle les mots « Que l'ange Gabriel te garde » et s'enfuit à demi vêtu au secours de sa fortune qui partait en fumée. En effet, un incendie terrible, dont la cause demeura jamais inconnue, s'était emparé des 9 magasins de la rue des Coulouglis. Les flammes jaillissaient par les portes, ronflaient, se tordaient, pétaradaient, retombaient en gerbes d'étincelles, illuminaient le firmament. On entendait grésiller les balles d'étoffe, craquer les solives, céder les plafonds. L'atmosphère de la petite ville était irrespirable, le vent était d'une violence inouïe. « Au feu !» criaient les Arabes. À l'aube seulement, sur le pavé, caracolaient les chaux massifs de la remonte, roulaient les pompes des tirailleurs. Les deux frères contemplaient d'un œil ahuri l'immensité du désastre. Aucun de leurs biens n'était protégé par une assurance. Leur fatalisme s'était toujours opposé à cette mesure de précaution. Ils ne voulaient pas, disaient-ils, appeler le malheur. Le désastre était encore plus immense qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Le matin, à la place des 9 magasins et des 9 immeubles qui les surmontaient, on voyait un amas de pierres, noircies, de poutres qui fumaient encore. Les propriétaires des immeubles, les familles qui n'avaient plus de mobilier, qui avaient perdu un de leurs membres, 15 enfants étaient morts dans les flammes, réclamèrent au Neftali des indemnités. L'union fit la force et, cette force, devait avoir raison de la fortune considérable des deux frères. Lorsqu'elle connut la catastrophe, Rachel éclata au-dedans d'elle-même d'un rire sadique. « Je crois que cette fois je le porte, mon choumir Israël, » songea-t-elle, et elle caressa ses flancs avec amour. À mesure que la nouvelle de la ruine des Neftali se répandait dans les villages environnants, les Arabes, gardiens de leurs fermes, fauchaient les récoltes à moitié mûres, rassemblaient les troupeaux et prenaient la fuite vers le sud, après avoir mis le feu aux bâtiments pour faire croire que bêtes et céréales avaient péri d'incendie. Pour payer les frais des nombreux procès, les dommages et intérêts auxquels ils furent condamnés uniformément, les Neftali durent vendre les terres qu'ils possédaient au prix les plus bas. On avait fait le siège des enchères. C'est tout juste si leur dernière dette, les Neftali ne la payèrent point de la prison. Mardoché ôtait ses lunettes, joignait les mains et disait à son frère qui perdait courage « Que veux-tu ? Il faut se résigner. Il faut dire comme notre père, plutôt celui-là qu'un pire. Cependant, personne de nous n'a failli à son devoir. Nous avons toujours remercié Dieu de ce qu'il nous donnait. Pourquoi, ô Jéhovah, ces malheurs l'un après l'autre ? Pourquoi ? Veux-tu nous éprouver ? Et dire qu'aucune de nos filles n'est mariée ? Que nous n'avons pu sauver une seule dot ? Si au moins nous avions placé l'aîné dans sa chambre, nous aurions accompli une misva et nous aurions devant nos regards une porte de salut. » Les jeunes filles sanglotèrent en un cœur lamentable lorsqu'elles virent les commissionnaires des huissiers emporter sur leurs épaules les malles où était enfermé le trousseau de chacune, les diamants rares, les colliers de balles. Mais l'instant le plus douloureux fut celui où on vint les chasser de la maison paternelle, de la maison fastueuse où elles avaient vu le jour, dépouillées de tout, comme Adam et Ève furent chassés du paradis. Et Rachel sentait monter en elle une allégresse infinie. C'était la voix de Dieu qui répondait à la sienne. Son cœur se gonflait d'espérance. Son sein portait enfin un mâle. Oh oui, elle en était sûre. Par tous les malheurs qui fonçaient, par la misère qui arrivait sur eux à pas de géant. Les mauvaises nouvelles succédaient aux mauvaises nouvelles. Leur fortune s'était émiettée, avait fondu comme le sel dans l'eau. Les deux frères cherchèrent en vain à remonter le courant. Aucun commerçant ne voulait les employer, les uns par vengeance, d'autres par scrupule. On osait occuper à des travaux dérisoires ceux qui avaient été les plus riches de la ville, qui avaient tenu la place. Et bientôt, mon frère le rieur et Mardoché le morose, les brûlés, comme on les appelait maintenant, connurent les journées sans pain. La petite ville se colore des feux roses du couchant. Le clocher de l'église égrène 6 coups. L'air tiède porte des senteurs de jasmin et de fleurs d'oranger. Là-bas, en deçà des remparts, près de la caserne des tirailleurs, la maison du petit étage où les brûlés se sont réfugiés entr'ouvre ses fenêtres. À chacune, un visage fardé se penche, un saint-nuque découvre un corsage à paillettes. Dans la demi-ombre se distinguent des robes ballantes de couleur crue, des jambes au duvet d'or, des cigarettes allumées qui brillent comme des lucioles. L'intérieur est composé de 2 chambres dont les tomettes saignent au pied de murs bleus. Sur des tables en hexagone, des tasses alignées, des plateaux de cuivre où le hachiche s'amoncelle, des narguilés attendent les clients. Devant un four, Mesaltoub, la fille de Mardoché, drapée dans une chemise marocaine, souffle le feu sous une cafetière en fer blanc. Les hommes arrivent, des officiers pour la plupart. Ils rasent les murs, le pas vif, l'œil étincelant de désir. Au pied de l'escalier, ils se détournent légèrement d'un couplet bêté. Isaac et Rachel, dont le cœur et la raison ne sont déjà plus de ce monde, contemplent tristement leur dernier né. Le petit Israël, l'ange du malheur endormi sur leurs genoux.